Et ce dimanche, nous allons prendre des gants au propre comme au figuré au Mali. Que deviennent les documents de Tombouctou? La ville a été pillée par les groupes terroristes en 2012. Comment ces trésors sont-ils restaurés, conservés? Christelle Pire, notre correspondante au Mali, a mené l'enquête. Ce sont les 29 jours qui ont fait basculer la Tunisie dans la foulée de l'immolation de Mohamed Bouazizi jusqu'à la fuite de Ben Ali, c'était il y a 8 ans. 29 jours totalement inédits, mais avec des centaines de photos, de vidéos, des millions de posts Facebook. Cette révolution 2.0 s'expose en ce moment à Tunis, au musée du Bardo, où notre correspondant Mohamed Haddad a rencontré l'historienne Kemar Benada. Salma Bergache est arrivée du FESPACO à Ouagadougou pour être ensuite au Festival du film national de Tanger. La réalisatrice marocaine sera avec nous dans un instant. Bienvenue dans ce bain de culture.
Midi, un bain de culture avec Florence Blanc.
Dans ce bain de culture, c'est un travail exceptionnel qui a été mené en Tunisie pendant près de 4 ans. Collecter les images, les enregistrements, les films des quelques jours qui ont changé ce pays, qui ont enclenché la révolution. C'était entre décembre 2011 et janvier 2012. L'une des premières révolutions, comme on l'a appelée, révolution Facebook. Eh bien, cette révolution trouve désormais sa place au musée du Bardo à Tunis. Une exposition suite à un travail de fourmi, de chercheurs, d'historiens, d'étudiants. Kemar Benada est historienne, professeure à l'université de la Manouba dans la capitale. Nous sommes avec elle dans ce bain de culture. C'est entre autres elle, avec elle, que tout a commencé pour une exposition dont le titre se décline en trois langues.
Before the 14th, Thawra Ghildrej, 14 Ghildrej et Instant Tunisien. Trois langues. Une composition, un titre composite en trois langues. D'abord parce que la révolution a eu trois langues au moins. C'est-à-dire qu'on a vu sur les slogans de la révolution tunisienne des phrases en arabe, des phrases en français et même des phrases en anglais. Game over, dégage, El Khobzoumé, Ben Alilé, etc. Donc on a voulu aussi, par cette composition trilingue du titre, rappeler que la révolution tunisienne a eu plus d'une langue, et au moins ces trois langues-là dans son expression. Par ailleurs, chacun des titres, qu'ils soient en arabe, en français ou en anglais, donne un clin d'œil, si vous voulez, à quelque chose. Et on a voulu avoir un titre anglais, Before the 14th, parce qu'il était très court et que ça ressemble aussi, ça fait allusion à certains titres de films, etc. Référence à un film qui s'appelle Thawra Ghildrej, donc c'est juste avant la révolution. Enfin, tous ces petits clins d'œil, on a voulu un peu les concentrer et c'est un peu la démarche dans toute l'exposition. En fait, on a engrangé des tas de décisions qui viennent de différentes compositions de l'équipe, c'est-à-dire qu'il y avait parfois des artistes, des documentalistes, des profs eux-mêmes. Et on a essayé un peu de garder un esprit, un peu comme la Révolution, c'est-à-dire l'esprit d'une conjonction d'efforts, de visions, de regards, dans un but assez convergent. C'était à la fois de collecter au niveau du projet toutes les sources électroniques et les vidéos, etc., qui ont circulé entre le 17 décembre et le 14 janvier.
C'était des moments tendus parce que l'histoire était d'ampleur nationale, c'était une affaire nationale. Donc c'était des moments durs pour l'équipe médicale. Mais bon, on a suggéré jusqu'à l'aïrahmo tofa.
Pendant ces 29 jours de la révolution, on sait qu'il y a une sorte de déni de la presse officielle tunisienne, ou tout au moins, et que la presse étrangère et internationale, et les télévisions aussi internationales, ont fonctionné beaucoup en étant alimentées par des vidéos qui sont parties de la base, comme on dit, c'est-à-dire qui sont parties de Sidi Bouzid, de Tela, de Gasserine, des différents lieux d'insurrection. Et nous avons voulu, si vous voulez, boucher ce trou, si vous voulez, qui existe dans l'information officielle, d'une certaine manière restituer un peu toutes ces voix qui se sont acheminées jusqu'aux médias internationaux, jusqu'à cet écho mondial, qui d'une certaine manière est une marque assez caractéristique de la révolution tunisienne et qui, on ne le sait pas encore, on n'arrive pas à le mesurer, a favorisé non pas le déclenchement, mais probablement le cours insurrectionnel, c'est-à-dire que l'évolution vertueuse, le crescendo, si vous voulez, insurrectionnel, doit beaucoup à la vitesse d'acheminement de ces informations qui ont été collectées par les habitants et par les acteurs eux-mêmes. Donc il y a eu un projet de collecte et puis aussi en cours de route, au bout de 2 ans ou 3 ans de collecte, on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse quelque chose du premier noyau de vidéos et de matériel Facebook, slogans, graffitis, etc. que nous avons aussi moissonné sur le web.
Midi, un bain de culture avec Florence Blanc.
Dans ce bain de culture, nous sommes ce matin avec l'historienne tunisienne Kmar Bendana. Elle est professeure à l'université de la Manouba. Elle a travaillé pendant plus de 3 ans sur les 29 jours qui ont façonné la révolution tunisienne. Entre la mort de Mohamed Bouazizi et le départ ensuite, le 14 janvier 2012, de Zine El Abidine Ben Ali. Une collecte de centaines de vidéos amateurs, de pages de blog, il y a aussi des documents numériques, des photos prises lors de cette parenthèse si particulière. Un travail qui a été mené par des chercheurs, des historiens, des étudiants, des documentalistes. Un travail qui est maintenant exposé au musée du Bardo à Tunis. Une démarche indispensable pour comprendre l'histoire.
Et voilà!
Nous avons été tous mis devant le fait nouveau pour nous que si nous n'agissons pas aujourd'hui, nous ne pourrons pas écrire peut-être l'histoire de ces 29 jours. Et donc, tout le monde a été excité par cette idée. Tout le monde a marché dans cette volonté. Donc, je pense que nous tous, enfin, tous mes collègues et moi, on ne s'est même pas consultés. On a compris que l'entreprise était non seulement intellectuellement nécessaire pour écrire l'histoire plus tard. C'est cette équipe productrice et la commissaire de l'exposition, Houria Abdelkef, qui ont, si vous voulez, traduit le travail intellectuel qui a été fait à partir des 29 jours, à partir du travail de Jean-Marc Salmon, et puis à partir aussi d'un récit que nous avons extrait de l'ouvrage, avec un souci aussi de mettre des scansions chronologiques, d'où l'idée de cette frise chronologique qui porte les 29 jours de la Révolution et qui montre comme un sismographe ou comme un électrocardiogramme, si vous voulez, à la fois les vibrations des moments, mais aussi les tendances générales et surtout le crescendo insurrectionnel qui du 17 décembre au 14 janvier va aboutir au départ de Ben Ali qui devient un peu l'acmé, si vous voulez, de cette frise chronologique.
Ça fait mal, voilà, ça fait trop mal. Regardez les gens, regardez les femmes.
Mais cette nouvelle protestation de masse aura raison du dictateur. Il prend la fuite, lui et sa famille. Le gouvernement provisoire décrète l'état d'urgence. La Tunisie est alors sur le fil.
Bain de culture, l'expo.
Ce qui est formidable, moi j'ai fait une dizaine de visites guidées, c'est l'émotion des gens qui regardent. Ça, c'est une chose absolument fabuleuse, parce que chacun a une question à poser précise, parce que chacun a ce souvenir en lui, parce que chacun, ça a été une expérience intime très importante pour lui. Que ce soit des enfants ou des adultes, chacun a un souvenir très précis, personnel, de tel ou tel événement ou de tel ou tel épisode. Et de voir l'émotion chez les gens qui regardent et cette envie de comprendre, parce que c'est de l'émotion, et une envie de comprendre, très vivante. Parce que moi, j'ai l'habitude des historiens qui aiment les papyrus ou qui connaissent les moindres recoins de la lutte, de l'histoire du mouvement national, etc. Vous avez toujours des passionnés dans l'histoire. Vous avez toujours des gens qui savent tout d'un personnage ou d'une période ou d'une région. Je connais ça. Je sais que l'histoire est une passion assez répandue et qui n'est pas propre aux historiens professionnels. Mais ce que je trouve extraordinaire, c'est cette émotion personnelle et intime des gens qui viennent regarder. Qui viennent regarder un événement qui les a marqués et qui leur a donné d'émotion. Ils sont devant, en train de reconnaître un détail, de se souvenir « Ah oui, j'ai entendu parler de ça à la télé. Ah oui, mais ça c'était... Ah non, le 25. Ah non, c'était le 26 décembre. Mais oui, c'était à Sidi Bouzid. Non, c'est à tel. » Etc. Et de voir donc cette animation, les gens sont animés, vous n'avez pas besoin de les animer, ils sont animés eux-mêmes, mais c'est cette animation émotionnelle qui les pousse à comprendre, ils veulent comprendre. Et ça, moi je trouve ça en tant qu'enseignante et en tant que chercheur, je trouve ça assez magique, parce que ce n'est pas donné à tous les sujets. C'est un sujet qui en lui-même porte en lui un feu, mais un feu qui peut aider des Tunisiens, des jeunes Tunisiens, à mieux comprendre leur passé. Et ça, je trouve ça assez extraordinaire. C'est un cadeau qui est à peu près inégalable. Il n'a pas d'équivalent à mes yeux. Pour que les gens se penchent un peu sur ce passé-là qui est si récent, avec un tel intérêt, une telle émotion, et qu'on puisse régler avec eux des problèmes de connaissance en leur disant « Regardez par exemple, ici les femmes commencent à apparaître. L'insurrection a déjà changé de nature. » Juste quand vous faites cette observation sur les vidéos, vous leur donnez en fait un cours d'histoire. Vous leur montrez que un crescendo insurrectionnel, s'il n'y a pas de femmes, il ne peut pas aller très loin. Mais s'il rentre les femmes dans la modélisation des révolutions, ça a une signification extrêmement importante. Quand les femmes rentrent dans les processus révolutionnaires, on est certainement dans quelque chose de très important comme mouvement social.
Before the 14th, cette exposition sur cette révolution tunisienne que l'on a aussi appelée la première révolution au Facebook, c'est en ce moment au musée du Bardo à Tunis. Elle doit aussi prendre son envol de l'autre côté de la Méditerranée pour être accueillie ensuite à Marseille, en France, au Mucem.
Bain de culture, l'expo.
Ce sont les 29 jours qui ont fait basculer la Tunisie dans la foulée de l'immolation de Mohamed Bouazizi jusqu'à la fuite de Ben Ali. 29 jours inédit. Il y a 8 ans maintenant, la presse nationale tourne le dos, mais des centaines de photos, de vidéos ont été prises grâce au téléphone portable. Il y a aussi des millions de posts Facebook, des blogs qui ont pris le relais. Cette révolution 2.0 s'expose en ce moment au Bardo à Tunis et partira ensuite en France, à Marseille. C'est une très bonne nouvelle pour l'historienne Khmer Bendana. Elle a travaillé sur ce projet d'archivage de ces nouvelles données pendant plus de 3 ans.
La surprise, l'heureuse surprise d'avoir des propositions imprévues, complètement imprévues. D'abord qu'elle aille, qu'on en fasse un petit rappel, une petite reconstitution à l'occasion de la Foire du Livre au mois d'avril, ce qui est déjà une belle proposition pour nous à cause du public de la Foire du Livre qui est un public jeune, familial, etc. Donc pour nous c'est un beau cadeau. Et puis la municipalité de l'Ariana aussi nous a offert l'opportunité de pouvoir transporter chez elle aussi l'exposition quand elle sera décrochée du Bardo. Et nous ne désespérons pas. aussi qu'elle puisse aller dans d'autres parties de la région, selon les possibilités qu'il y a dans une maison de la culture ou d'autres lieux pour lesquels nous pourrons justement donner à cette exposition la mobilité que nous avons souhaitée et qui est nécessaire au projet, qui est intrinsèque au projet. Et puis, dernier déplacement prévu, je ne sais pas s'il faut appeler ça déplacement, je crois que c'est un peu réducteur comme terme, cette exposition va aller au MUCEM. C'est le MUCEM qui était le musée de Marseille, le musée des méditerranéens de Marseille, dont l'équipe a eu vent un peu de notre travail, qui s'est associée à nous pendant le montage de l'exposition et c'est une formule très originale parce qu'ils ont assisté un peu à nos travaux. Notre travail intellectuel les a intéressés. Ils vont en faire un autre habillage au MUCEM et pour nous, c'est une autre occasion de montrer dans une autre scénographie plus adaptée donc au musée de Marseille. Mais c'est la même base de travail, c'est le même travail de scénario, si vous voulez, qui a été fait, qui va se transporter au MUCEM. Et ça va durer 6 mois entre le 19 mars et fin septembre. Et pour nous, c'est une satisfaction de plus, parce que non seulement cette exposition, ce petit cours sur les 29 jours de la Révolution tunisienne, qui est devenu un événement mondial, sera discuté à l'intérieur de la Tunisie, on l'espère, le plus possible, dans les régions, bien sûr, mais à des occasions diverses, mais va se transporter de l'autre côté de la Méditerranée et va servir aussi comme support pour des débats, pour de la pédagogie, pour etc., autour de la Révolution tunisienne, qui intéresse aussi en France, non seulement les Maghrébins ou les Tunisiens de France, mais tout le monde. Et donc c'est un lieu aussi qui va permettre de donner un écho encore plus grand à ce petit cours d'histoire sur la Révolution tunisienne, fait par des Tunisiens et avec du matériel, le matériel des Tunisiens qui ont fait la Révolution.
Voilà cette Révolution 2.0 en ce moment au musée du Bardo, ensuite à Marseille, ce sera jusqu'à la fin du mois de septembre, profitez-en. Dans la première partie de ce bain de culture, nous avons fait un flashback de 8 ans sur les débuts de la Révolution tunisienne. Et bien là, c'est un véritable voyage dans le temps qui nous attend. Tombouctou au Mali, la ville aux 333 saints, la perle du désert. Et ses trésors pillés par les groupes terroristes, c'était en 2012 en majorité des manuscrits. Alors, comment sont-ils maintenant restaurés, conservés? Notre correspondante au Mali, Christelle Pire, a suivi ces opérations quasiment chirurgicale.
Tombouctou, face à la mosquée de Djingare Ber, la bibliothèque privée d'Al-Imam Essaouiti, aujourd'hui l'une des plus importantes de la ville. C'est Alpha Ibrahim Sissé, l'imam adjoint, qui veille sur les manuscrits. Dans ses mains, un des plus précieux, un Coran du 15e siècle décoré d'or.
Ici, on a à peu près 8000 manuscrits. Les plus anciens manuscrits d'ici, ça date du 13e siècle. Et il y en a de tous les domaines aussi, de l'astronomie, de l'astrologie et de la littérature arabe.
Tous ces manuscrits ont été cachés pendant l'occupation de la ville par les groupes terroristes en 2012. Désormais entassés sur des étagères, certains sont en piteux état. Des pages tombent en lambeaux.
Les manuscrits de Tahar Moïd Aïroïnkari, mais danger, quand même. Parce que nous sommes déjà à la température de Djati, nous sommes à la température de Djati.
Température et humidité non régulées, présence de termites, manipulation des manuscrits sans précaution, autant de menaces qui pèsent sur ces écrits vieux de 8 siècles. La solution est à trouver, notamment du côté de Bamako. L'Institut Ahmed Baba, dans la capitale malienne. Ils sont entreposés plus de 27 000 manuscrits exfiltrés de Tombouctou en 2012. 11 000 sont restés là-bas.
Lorsqu'on a fait venir les manuscrits, il était vraiment prioritaire de conserver ces manuscrits d'abord, avant de faire la restauration. La restauration, ça vient après. Le plus important, c'est la conservation d'abord.
Comme l'explique Garba Traoré, en charge de la conservation, ici l'objectif est de sauvegarder les vieux écrits du domaine public. Pour cela, on fabrique des boîtes.
La boîte, elle est composée du sky, du carton et de la colle. Ça peut les protéger contre le feu, l'humidité, la température, l'eau. parce que quand vous versez de l'eau sur la boîte tout de suite, là, ça ne va pas atteindre le manuscrit immédiatement. Il faut que vous inondez. Car même si vous inondez carrément cette boîte dans de l'eau, ça prend le maximum de temps pour que vous ayez le temps de faire sortir le document.
Après la conservation, direction la numérisation. Tous les manuscrits de l'Institut Ahmed Baba ont déjà été scannés, mais le processus a recommencé depuis le début de l'année pour une numérisation plus précise. Protégés par un masque et des gants, les agents photographient minutieusement chaque page sous le regard d'Abdourahmane Diarra. L'objectif, c'est à terme de limiter la manipulation de ces vieux écrits.
Les manuscrits là sont très très anciens, donc c'est dangereux pour la santé. Et puis les manuscrits aussi sont fragiles. À chaque fois, si les manuscrits sont entre les mains, ça dégrade davantage les manuscrits.
Ce qui reste à faire surtout, c'est publier ces travaux. Parce que travailler seulement ne suffit pas, il faut les publier pour que le lecteur, les chercheurs puissent en profiter, puissent en savoir ce qui existe à l'Institut. Je crois aujourd'hui c'est ça notre vrai défi.
Mohamed Diagayeté, le directeur général de l'Institut Ahmed Baba, espère mettre très vite toutes ces numérisations en ligne. Resteront ensuite deux objectifs, la restauration des manuscrits les plus abîmés, mais pour cela il faut des financements, et puis...
Nous sommes actuellement à Bamako malgré nous. Sinon, notre souhait est que nous soyons vraiment à Tombouctou. Mais comme vous connaissez la situation, donc nous sommes là temporairement. Et si tout va bien, nous allons rentrer à Tombouctou dès que les conditions le permettent.
Il y a 3 semaines encore, une tentative d'attaque suicide avait lieu à l'entrée de la ville de Tombouctou. À Bamako, Christelle Pierre pour Média.
C'était hier soir la fin du 20e Festival National du Film de Tanger. Ça s'est terminé par le palmarès, la remise du Grand Prix à un documentaire, We Could Be Heroes, de Hind Bessari. C'est l'histoire d'Azdine Nouiri, double médaillé d'or paralympique marocain au lancer de poids. Un homme qui consacre sa vie, son expérience, son énergie à améliorer la situation des sportifs aux besoins spécifiques. Avant cela, eh bien, Selma Bergash est venue dans nos studios à Tanger. La réalisatrice marocaine était aussi en compétition avec son deuxième long métrage, Indigo. Indigo qui avait été sélectionné auparavant au prestigieux FESPACO. 2 sélections en moins de 10 jours, avec à la clé à Ouagadougou le prix de la critique africaine.
Bain de culture, cinéma.
Ce qui était merveilleux, c'était qu'après la projection... La presse a été unanime, ils ont vraiment adoré le film, le public, les cinéastes, et ça c'est un vrai encouragement. C'est difficile de faire des films. Un premier long se fait connaître, un deuxième on fait un peu plus sa place, et on précise qu'on est un peu plus cinéaste. Donc c'est important, c'est une étape très importante.
Pourquoi vous dites on précise qu'on est un peu plus cinéaste ? Vous êtes réalisatrice, vous êtes cinéaste.
Oui.
Vous faites des films, vous avez fait des documentaires, des courts-métrages, vous travaillez vraiment dans cette matière-là. Mais là, c'est un petit peu, vous arrivez à quelque chose où vous dites ça y est, ça c'est un vrai produit fini.
Non, mais c'est vrai parce que il y a beaucoup de tentations dans ce métier, c'est-à-dire des tentations d'argent, des tentations d'épouser la vision des autres pour pouvoir avoir les moyens de faire un film qui finalement ne nous ressemble pas. Mmh. Et donc, je suis heureuse moi de rester intègre et de continuer sur ma lancée. C'est dans ce sens que je le dis. Cinéaste pour moi, c'est pas simplement le fait de faire du cinéma, c'est aussi de se respecter, de respecter sa vision du monde, de respecter ses idées et ses valeurs.
Indigo, vous avez dit à l'instant, je veux que ce film soit intègre. C'est un film qui vous ressemble. C'est un film que on va peut-être raconter un petit peu l'histoire, mais en vraiment le pitch hein, en deux petites secondes. C'est l'histoire de cette jeune fille qui a 13 ans, c'est ça, Nora,
c'est ça.
Et qui, en fait, dans sa famille, ça va pas bien du tout, avec son grand frère notamment, qui est visiblement brutal, violent, avec elle notamment. Et d'un seul coup, elle a une rupture avec ce genre de famille qui s'intéresse peut-être pas assez à elle, et elle se réfugie dans un monde un peu parallèle, on va dire, voilà, et qui est complètement rejetée par sa famille. Donc c'est une espèce de quête comme ça, de qui suis-je ? Enfin, j'imagine, c'est quelque chose, vous dites, moi je veux être intègre, c'est donc quelque chose qui vous ressemble. Et ça a été difficile de le monter, ce film ?
Mais un film nous ressemble toujours un peu. Indigo, c'est la couleur bleue qu'une médium a donnée à l'aura qu'elle a vue autour des enfants qu'on appelle indigo, les enfants indigo, c'est des enfants qui sont doués de clairvoyance et d'hypersensibilité.
Et donc, Nora est douée de
voilà, de ça. Elle a cette faculté-là. Et c'est le fait d'avoir cette différence qui fait qu'elle est rejetée par son entourage. Elle est rejetée par un système qui est un système où l'éducation ne donne pas la place aux enfants. Un système où... Ça parle aussi de trois générations de femmes.
Oui.
De trois générations de femmes qui sont confrontées à un monde matériel très dur,
omniprésent.
Difficile. Oui, voilà, omniprésent. Et puis d'un seul coup, ils se retrouvent, eux qui sont dans leurs problèmes, dans leurs égos et tout, se retrouvent aussi confrontés à l'irrationnel par l'intermédiaire de cet enfant. Et cet enfant nous rappelle quelque part que nous avons tous en nous cette faculté d'avoir cette sagesse, cette intuition qui est censée nous guider et qu'on a perdue. Donc elle est un peu le symbole de ça. Et les gens, en général, ont peur de cela parce que soit ils l'acceptent et ils se guident dans leur vie avec, soit ils le rejettent parce qu'ils en ont peur.
Alors donc c'est une petite fille qui est rejetée, donc du coup.
Absolument.
Absolument, oui.
Et donc, elle va vers une quête initiatique. Et à la fin du film, on découvre quelque chose qu'on ne pense pas. Voilà.
La suite de ce bain de culture, c'est avec la réalisatrice marocaine Selma Berga. Juste avant sa sélection de son film Indigo au Festival du film national de Tanger, eh bien Selma Bergache était au FESPACO de Ouagadougou. Retour sur son parcours.
Midi, un bain de culture avec Florence Blanc.
Vous avez fait vos études à Paris, à la Sorbonne. Vous avez un doctorat en cinéma. Et surtout, vous avez fait une thèse, en tout cas, sur le statut, le rôle des femmes dans le cinéma. Alors, on ne va pas dire que c'était il y a un certain temps, puisque les études, quand même, bon, voilà, c'était il y a un petit certain temps. Qu'est-ce qui a changé par rapport à cette thèse, ce doctorat? Qu'est-ce qui a changé, là, en 2019? Et justement, vous revenez du FESPACO, où on a beaucoup parlé des femmes, de la place des femmes dans le cinéma, des problèmes d'agression sexuelle dans le cinéma. Il y a des choses qui ont été dénoncées sur le continent africain. On ne va pas parler de Cannes il y a 2 ans. Ce sont des choses comme ça. Il y a Hollywood. Au Maroc, vous avez fait une thèse. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Est-ce que les choses ont évolué? Comment elles évoluent? Et est-ce qu'elles évoluent bien?
Il y a beaucoup de choses à dire. Donc, déjà, oui, forcément, il y a une évolution. Parce que donc à cette époque, j'ai soutenu ma thèse en 97. Donc il y avait deux femmes réalisatrices, c'était Farida Bourkia et Farida Belyazid.
Oui. Donc vous retrouvez là en ce moment.
Attends, oui, absolument.
Et puis présidente du jury.
Oui, Farida, j'ai été assistante aussi sur son film Kid and Sab, parce que j'ai fait beaucoup d'assistanat. J'ai fait une quinzaine d'années d'assistanat, et donc je travaille avec la majorité des réalisateurs. Je fais pas de distinction parce qu'on est réalisateur. Il y a une évolution parce qu'il y a beaucoup plus de réalisatrices. Maintenant, on peut en compter à peu près entre les longs et les courts-métrages, à peu près 38, et dont 10 qui font des longs-métrages et qui sont vraiment actives. Donc, c'est pas mal par rapport à certains pays, même européens, où il y a moins de femmes réalisatrices. Ensuite, bon, personnellement, j'ai toujours eu droit au respect, que ce soit pendant mes années d'assistanat ou de réalisation. Ça a été juste un bonheur de travailler. J'ai toujours travaillé avec des personnes avec qui je me considérais en famille. Donc, il n'y a jamais eu de problème d'irrespect ou... c'est au contraire, je pense que c'est le contraire qui se passe. C'est-à-dire que dans le cinéma marocain, il y a beaucoup de personnes qui m'ont soutenue et plus d'hommes que de femmes. Après, je sais que ça existe et que c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé au FESPACO. Bon, malheureusement, je n'étais pas, j'ai pas pu être présente à la table ronde parce que j'avais, en même temps, j'avais la projection de mon film.
De votre film.
Une projection presse. Et donc, ça existe. Bon, personnellement, j'ai pas eu à le vivre. Et c'est malheureux. Il faut que ça cesse parce que.
En tout cas, il faut que ce soit dit.
Il faut que ce soit dit. Et puis, c'est terrible d'avoir une pression comme celle-là. Alors que nous tous, en tant qu'êtres, qu'on soit femme ou homme, avons le droit de nous exprimer à travers ce médium qui est le cinéma.
Et c'est
non seulement un droit, mais un devoir parce que nous avons la responsabilité de dénoncer certaines choses à travers le cinéma, des choses différentes de celles qu'on voit dans les médias. Donc, il faut absolument qu'il y ait plus de femmes derrière la caméra. Il faut qu'il y ait plus de femmes qui racontent leurs histoires.
Et Selma, la cinquième corde, c'était plus des hommes, on va dire, sur la musique.
Ouais.
Là, vous êtes avec des femmes.
Ouais.
Et le troisième long métrage, peut-être qui est en cours de maturation dans votre cerveau. Vous avez un projet, vous travaillez sur quelque chose, une idée, vous déroulez le fil déjà.
Ben, déjà, je voudrais parler de la cinquième corde pour dire que le fait d'avoir travaillé sur les hommes, ça a dérangé un peu. Oui, on est venu me dire, mais comment ça se fait que tu n'aies pas fait un film sur des femmes? Je dis, mais c'est mon droit aussi, en tant que femme, de parler des hommes et de parler de leur vulnérabilité. Et donc, ça, je sais que ça a dérangé, parfois. Donc, bon, là, il se trouve que j'avais envie de faire un film sur les femmes, parce que c'était une histoire qui s'imposait à moi. Mais le prochain film, je sais pas, je suis en train d'écrire sur deux registres, une comédie et un drame, et on verra bien. On verra bien.
Et vous arrivez à écrire sur les deux en même temps, parce que comédie et drame, ça doit être compliqué. Ça.
Non, mais j'écris un peu là, et parce que c'est un projet que j'avais commencé, ça fait très très longtemps, et bon, ça dépend de mon mood, quand je suis bien ou quand je suis mal.
La réalisatrice marocaine Selma Bergache pour Médien dans Van Culture, son film Indigo, avec entre autres Marwa Khalil, Rouloud. Il n'y a pas encore de date officielle de sortie au Maroc, mais dès qu'on est au courant, eh bien, nous vous tenons informés. C'est la fin de ce Bain de Culture. Je vous souhaite un excellent dimanche. La semaine sera courte, puisque dimanche prochain, vous allez retrouver David Labo.